Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce micro-rebelle hebdo en date du vendredi 3 avril 2020 à 18h comme tous les vendredis sur micro-rebelle.fr et sur l'appli de la Franf. Par ailleurs, nos amis de Radio PFM 99.9 dans l'Arrajois nous rediffusent le vendredi à 20h, le samedi matin à 7h30 et le dimanche après-midi à 14h. Nous les en remercions. Enfin, un rappel, toutes nos émissions, tous nos reportages sont podcastables et téléchargeables sur micro-rebelle.fr. Pour aujourd'hui, bien entendu, ce micro-rebelle hebdo ne vous proposera évidemment pas d'agenda social et culturel et fera donc une large place aux chroniques et reportages de nos salariés et bénévoles concernant l'actualité et donc autour de la crise sanitaire en cours. Justement, cette semaine, il a beaucoup été question de l'après-crise sanitaire. On a même vu apparaître l'expression « le jour d'après ». Préparer l'après. L'angle d'attaque, tel que nous le présentent les médias et le gouvernement, c'est le CARE, C-A-R-E, le CARE, prendre soin. Il faudra continuer, après la crise sanitaire, à s'occuper des anciens, de ses voisins, à prendre soin de soi et des autres. C'est évidemment très important. Mais il ne faudrait pas en rester à cette approche strictement individuelle et en tous les cas dépolitisée. Préparer l'après, c'est commencer par tirer quelques leçons de cette crise sanitaire. La première leçon, ne pas déléguer notre pouvoir d'agir à l'État. L'État a montré qu'il prenait ses décisions au coup par coup, sans vision d'ensemble. Au contraire, les habitantes et habitants, les travailleuses et travailleurs ont montré qu'elles et ils savaient où était leur intérêt. Quelques exemples. L'État impose le premier tour des municipales, les électrices et électeurs boudent les urnes. Ou encore, l'État pousse à ne pas déserter les lieux de travail, les travailleuses et travailleurs imposent leur droit de retrait. Voir à ce sujet nos reportages sur Renaud Doué et sur Amazon Low Implanque, disponibles en podcast et téléchargement sur micro-rebelle.fr. Deuxième leçon, la boussole qui guide toute la politique de l'État durant cette crise, c'est le souci d'atténuer la crise économique qui se profile juste après. Dit autrement, il s'agit pour l'État, comme après chaque crise, de faire en sorte que, ensuite, tout continue comme avant. C'est le sens des mesures de soutien aux entreprises. Aide ou subvention directe aux entreprises, exemple le chômage partiel, crédit quasiment illimité pour les banques et les grandes entreprises, 300 milliards d'euros en France, mais 550 milliards en Allemagne, 1000 milliards pour ce qui est de la BCE et 2000 milliards votés par le Congrès américain. Et tout ça sans aucune contrepartie et sans aucun contrôle. À l'opposé, la boussole qui nous guide ou qui peut guider les salariés, les habitantes et habitants, c'est justement de faire en sorte que tout ne continue pas comme avant. Notamment, premièrement, la crise, le confinement, nous permettent de nous interroger sur les activités qui sont nécessaires ou pas. Pour un patron, tout travail qui rapporte est indispensable. Nous pouvons nous appuyer sur ce que nous vivons aujourd'hui pour constater qu'il y a bien des activités économiques qui ne sont pas indispensables. Deuxièmement, ne pas continuer comme avant, c'est aussi s'interroger sur les lieux de production. Cette semaine, le président de la République a bruyamment indiqué qu'il était inacceptable de dépendre de l'étranger pour s'approvisionner en masques et en respirateurs artificiels. Et il en appelle donc à une sorte de patriotisme économique du type « produisons français ». On sait où ce type de formule peut conduire. Le président de la République est bien placé pour le savoir. Tout cela semble d'autant plus vain que ce sont dans tous les cas les entreprises, les patrons, qui décident où elles s'implantent, qui décident d'aller là où le coût du travail est le plus faible. Ceci étant, la crise pose bien la question de l'implantation des zones de production. Et ne pas continuer comme avant, c'est aussi se mettre en perspective de lutter pour que cessent les délocalisations uniquement motivées par le profit. cette question sera d'autant plus simple à traiter quand le pouvoir de décision sera retiré aux actionnaires pour passer entre les mains des salariés et des usagers. Troisième leçon, la troisième, enfin, que l'on peut bien sûr relier aux autres, concerne la conception que nous pouvons avoir de l'économie d'une manière large. D'une seule voix, l'État, le gouvernement, le président de la République, le patronat, le MEDEF, envisagent de nationaliser de grandes entreprises françaises. L'argument officiel serait de les sauver de la faillite ou des appétits de la concurrence étrangère. Mais il apparaît assez clairement qu'il s'agit avant tout de préserver les profits futurs à l'occasion d'une reprivatisation. C'est ainsi que se pose la question des droits de propriété concernant ces entreprises. Parce qu'on ne peut s'empêcher de s'interroger. Pourquoi est-il possible de nationaliser, par exemple Air France, alors que dans le contexte actuel, il semblerait logique de nationaliser les cliniques privées et les laboratoires pharmaceutiques, ou encore les fabricants de masques ou de gels hydroalcooliques? Un dernier mot concernant cette question des nationalisations, d'autant que c'est une thématique que poussent certaines forces de gauche. On sent bien que l'État n'a qu'une préoccupation, sauver le système. Et dans ce contexte, une entreprise nationalisée est amenée à être reprivatisée dès que possible. Et donc dans cette logique, la nationalisation ne peut que renforcer le droit de propriété privée sur les entreprises. D'où, et c'était un des enseignements de cette crise, faire un pas de côté et changer de perspective. Plutôt que d'envisager la nationalisation, on commence à évoquer la perspective du contrôle de la production par les travailleuses et travailleurs, ainsi que par les usagers. Et quand on parle de contrôle de la production, il s'agit de la prise en main et donc de la propriété de l'appareil productif par les travailleuses, travailleurs, en liaison avec celles et ceux qui en bénéficient, les usagers. Dans le système actuel, il existe d'ores et déjà des entreprises coopératives, gérées par les salariés et parfois laissant une large place aux usagers. Il y a sans doute là une belle perspective à développer, d'autant plus qu'en ayant en ligne de mire une finalité anticapitaliste. Un exemple dans la crise actuelle, la grande distribution. Parlons de Carrefour, Auchan, Casino, etc. Qui est le plus capable de savoir ce qui est bon d'un point de vue sanitaire pour les salariés et pour les usagers, pour les consommateurs? Eh bien, ce sont les salariés et les usagers. Alors que les patrons de Carrefour, eux, ils tranchent dans le sens de leurs intérêts, c'est-à-dire dans le sens des profits pour leurs actionnaires. Ainsi, plutôt que d'évoquer la nationalisation d'une entreprise, se pose bien davantage la possibilité de la socialisation de cette entreprise, autrement dit, de sa réappropriation par les travailleuses, travailleurs et usagers. Vu dans la presse cette semaine, ce titre de La Voix du Nord, le lieu d'écoute ne ferme surtout pas pendant le confinement. Il s'agit du service d'écoute et d'accompagnement pour les femmes victimes de violences conjugales sur le secteur Lens-Hénin. C'est l'association Solfa qui est en charge de ce lieu d'écoute situé à Hénin-Beaumont. La Voix du Nord donne la parole à Delphine Beauvais, directrice. La difficulté pendant le confinement, c'est que les femmes victimes de violences peuvent moins contacter le service d'écoute. Elles ne vont plus au travail ou chez une amie boire un café. Elles ne conduisent plus les enfants à l'école. Le conjoint lui-même est bien souvent en télétravail ou en chômage partiel. C'est très compliqué d'appeler. Elle profite parfois de micro-instants pendant que monsieur est sous la douche ou aux toilettes. Fin de citation. C'est donc l'occasion de rappeler aujourd'hui quelques infos et numéros de contact. Au téléphone tout d'abord, concernant les violences conjugales, il faut appeler le 3919 et concernant les violences aux enfants, le 119. Une nouveauté, c'est la possibilité d'envoyer un SMS pour tout type de violence conjugale, familiale et autres. Le SMS est à envoyer au 114. C'est un numéro d'urgence qui était réservé aux sourds et muets et qui vient d'être ouvert pour permettre d'alerter discrètement, silencieusement, dans ce temps de confinement. Pour avoir une idée de ce que vivent les femmes victimes de violences durant le confinement, voici quelques conseils délivrés par les associations d'accompagnement des femmes victimes de violences. Alors que par ailleurs, on s'interroge sur comment occuper les enfants durant le confinement, voici par exemple ce qu'on leur dit à elles. Apprenez à vos enfants à se positionner entre les ennuis et la porte. Apprenez aux enfants à appeler la police au 17 et à connaître par cœur leur adresse personnelle en utilisant des stratégies adaptées à leur âge. Dans la mesure du possible, ayez un téléphone en permanence chargé près de vous et un plan de sauvegarde au cas où vous seriez séparé de votre téléphone, un deuxième téléphone caché. Créez des signaux et ou des mots de code qui permettront à vos enfants de sortir et de se rendre dans un lieu où ils seront en sécurité et que vous aurez déterminé à l'avance avec eux. Effectivement, ces conseils, qui se passent de commentaires, donnent à voir ce que vivent les femmes victimes de violences en toutes circonstances, mais de manière peut-être plus marquée en période de confinement. Crise sanitaire à l'étranger, avec ce titre dans La Voix du Nord, les États-Unis touchés de plein fouet par la vague. Et le journal précise, l'épidémie de coronavirus est devenue la plus virulente aux États-Unis, avec 164 170 cas identifiés et 3 170 morts. Et plus loin, je continue à citer, les experts envisagent quasiment autant de morts du Covid-19 que de GIs lors des guerres de Corée et du Vietnam réunies, soit plus de 80 000 morts. Le symbole fait mal. Fin de citation. Concernant les mesures à prendre et l'attitude de Donald Trump, La Voix du Nord poursuit. Donald Trump, qui espérait une reprise économique, est contraint de se raviser. Le directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses lui a prédit jusqu'à 200 000 morts s'il n'obtempérait pas. Wall Street semble se calmer, mais la semaine dernière, 3 millions de nouveaux chômeurs, un record, se sont inscrits pour toucher l'allocation. Fin de citation. Dans un autre article, La Voix du Nord titre « Plus grand nombre de cas positifs au monde, les États-Unis se préparent au pire ». Et le journal précise « Les atermoiements de Donald Trump au début de l'épidémie dans son pays n'y sont pas pour rien, refusant d'abord de considérer que l'arrivée du virus sur le sol américain était inéluctable, il a ensuite refusé le principe des tests pour revenir sur cette décision fin février. Mais à cette époque, les premiers prélèvements ont dû être recommencés parce qu'ils étaient défectueux. » Fin de citation. C'est vrai qu'aux États-Unis, la crise du coronavirus risque bien, malheureusement, de jeter une lumière crue sur la réalité sociale de ce pays. Dès que la décision d'interdire les rassemblements de plus de 10 personnes a été prise, des restaurants, des hôtels, des lieux recevant du public ont été fermés et cela a suffi pour déclencher une première vague de licenciements massifs. 3 millions de travailleurs s'inscrivent au chômage durant la troisième semaine de mars, soit 15 fois plus que la semaine précédente. Aux États-Unis, les entreprises peuvent licencier très facilement. Cela dépend des États, mais en général, un chômeur perçoit autour de la moitié de son dernier salaire. Et cette allocation chômage n'est perçu que durant 4 mois. Une des conséquences, c'est la perte de l'assurance santé, qui va souvent avec l'emploi, et donc les soins médicaux qui deviennent inaccessibles pour les familles, le tout en période de crise sanitaire. Il n'y a jamais eu autant d'inscrits au chômage, c'est déjà beaucoup plus que durant la crise des subprimes en 2008-2009, et on peut craindre une accélération très importante avec les États qui vont tour à tour basculer dans le confinement. L'État a promis d'améliorer le sort des chômeurs par le versement d'un chèque de 1 200 $ par adulte et 500 $ par enfant. Au total, une somme deux fois moins importante que les aides promises à ce jour aux entreprises. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente semaine. N'hésitez pas à nous écrire à contact@micro-rebelle.fr et à nous laisser vos messages sur notre répondeur 03 74 71 24 87.
À présent, une série d'interviews par téléphone. Nous aurons tout à l'heure une professeure en collège qui conteste le terme de continuité pédagogique annoncé dans les médias par le ministre de l'Éducation nationale, mais aussi deux interviews sur la situation à l'international, en Grèce et tout de suite au Togo.
Fin mars, l'épidémie de Covid-19 s'était déclarée dans 42 pays d'Afrique sur 54, introduite par des voyageurs en provenance d'Europe. Suivant les pays, les premières mesures de confinement ont été prises, ainsi que des fermetures de lieux. On imagine bien que sur le continent africain, le coronavirus peut faire d'immenses dégâts, notamment dans les régions pauvres, où l'accès à l'eau est difficile, et où les systèmes de santé sont défaillants ou inexistants. Nous allons nous efforcer d'apporter différents éclairages sur cette situation africaine. Aujourd'hui, nous sommes au Togo, au tout début des cas déclarés de coronavirus. C'est l'occasion de faire un point en amont de la propagation du virus, avant d'y revenir dans quelques semaines. Nous échangeons avec François. François est ingénieur enseignant à l'IFNTI, l'Institut de formation aux normes et technologies de l'informatique à Sokodé, dans le cadre d'un VSI, c'est-à-dire un volontariat de solidarité internationale. Sokodé, là où enseigne François, dans le supérieur, est la deuxième ville du Togo, avec près de 120 000 habitants. Du fait des conditions de prise de son, il y a un peu de réverbération dans les propos de François, mais ça reste tout à fait correct, et c'est un témoignage très intéressant. Alors François, le grand sujet du moment, c'est le coronavirus. Qu'en est-il au Togo ? Y a-t-il des personnes atteintes et en quelle proportion ?
Alors officiellement, il y a 25 cas qui ont été testés positifs, dont un mort. Mais je pense qu'officieusement, il y a beaucoup plus. On en est cependant qu'au début, mais le comptage est beaucoup plus difficile qu'en France parce que les gens, ils ont beaucoup moins tendance à aller voir un médecin dès les premiers symptômes, quoi.
Et quelles mesures sont prises ? Des mesures de confinement ? Des mesures barrières ? Ou autre ?
Alors plusieurs mesures ont déjà été prises depuis le début de l'épidémie. Déjà les écoles, elles ont été fermées depuis le vendredi 20 mars. Quand je dis école, c'est tous les niveaux. Hein. Ça va du primaire, du secondaire et même le niveau universitaire. Par exemple, chez nous à l'IFNTI, on a plus d'étudiants. À l'heure actuelle, les fermetures, c'est pour 3 semaines, mais ça risque très certainement d'être prolongé, un peu comme ça se passe en France. Et maintenant, en ce qui concerne le confinement, je pense que ici, le confinement total, c'est tout simplement pas possible, pour la simple et bonne raison que la vie se passe dans la rue. Pour donner un exemple, il n'y a pas de supermarché, quoi. Ça se passe au marché ou dans la rue, il y a des vendeuses. Les déplacements, ils se font en taxi-moto. Donc ça, c'est pareil, c'est dans la rue. Maintenant, le gouvernement, il a envoyé quand même un communiqué officiel, c'était le 16 mars, qui a donné 9 mesures à adopter ou à respecter pendant la crise du coronavirus. Parmi elles, la première mesure, c'est la suspension des vols en provenance des 4 pays dits à risque, c'est-à-dire Italie, France, Allemagne et Espagne. Une autre mesure, par exemple, c'est l'interdiction de rassemblement. D'abord, ils ont fait de plus de 100 personnes et maintenant, ils ont même dit qu'on ne pouvait plus se rassembler à plus de 15 personnes. Bon, ça, je sais très bien que ce ne sera pas respecté, c'est pas possible. Autre chose, c'est la demande de s'auto-isoler pendant 14 jours pour les personnes qui proviennent des 4 pays considérés à risque que j'ai cité tout à l'heure. Bon, ça, c'est difficilement contrôlable par les autorités, mais on est obligé de miser sur la bonne foi des gens. Et après, bah, bien sûr, les mesures préconisées par l'OMS, lavage de mains, utilisation du gel hydroalcoolique, ne pas se serrer la main, etc. Aujourd'hui, ces consignes, elles ont été données, mais elles ne sont pas forcément respectées. Pour le moment, le virus est encore vu comme assez lointain par la population, vu qu'on n'a pas encore beaucoup vu les conséquences. J'ai aussi eu quelques témoignages. Ce n'est pas moi qui les ai vécus, mais j'ai entendu que le racisme sur les Blancs commençait un peu à grimper. Le fait que les Blancs amènent le virus en Afrique, la population commence un peu à avoir peur des Blancs. Donc voilà à peu près tout ce qu'il y a comme mesures aujourd'hui qui sont prises.
Peut-être maintenant, si tu le veux bien, pour faire un parallèle avec la situation française ou européenne, hein, en Europe, plusieurs pays disposant d'un système de santé a priori efficace sont durement touchés. On peut craindre le pire dans des pays à système de santé précaire, voire ne disposant pas de système de santé. Quelle est la réalité au Togo ? Comment les gens se soignent-ils ? Quelle est la situation concernant les hôpitaux, leur capacité, le maillage territorial ? Les capacités de soins, de réanimation, quelles sont-elles? Et combien cela coûte-t-il de se soigner, de se faire hospitaliser? Y a-t-il des systèmes de prise en charge, hein? On peut penser à une sorte de sécurité sociale. Y a-t-il une inégalité devant l'accès aux soins?
Alors, il faut savoir qu'ici, les gens vont beaucoup moins à l'hôpital, ou en tout cas beaucoup plus tardivement qu'en Europe. Les raisons de ça sont multiples. D'abord, il y a encore, à l'heure actuelle, recours à ce qu'on appelle la médecine traditionnelle, qui doit encore faire ses preuves, mais les gens vont d'abord voir ce genre de médecine, et ils vont en général à l'hôpital après, quand le recours à cette médecine a échoué. Et très souvent, c'est trop tard, pour toutes les conséquences que ça peut engendrer. Une autre raison, c'est le coût. Ici, il existe effectivement un système de sécurité sociale, mais il est réservé à ceux qui en ont les moyens, qui ont un emploi qui est déclaré, ce qui est assez rare ici. Et, autant dire que très peu de gens y ont accès. Il faut donc payer pour se faire soigner et tout le monde n'en a pas les moyens. Il faut savoir qu'ici, quand on vient à l'hôpital, il faut payer avant d'être pris en charge. Ça, c'est un système qui est mis en place pour éviter les impayés. Maintenant, concernant les infrastructures, si je prends l'exemple de Sokodé, qui, je pense, reflète assez bien la situation nationale, il existe un CHR, un centre hospitalier régional, qui couvre l'ensemble de la région centrale du Togo. Alors, le Togo, pour remettre dans le contexte, c'est 7,5 millions d'habitants, où il y a 5 régions administratives. Donc, voilà, il y a évidemment, il est évident que ce seul CHR ne peut pas absorber l'ensemble des patients de la région. Donc, il y a aussi des structures publiques, aussi, mais qui sont plus petites, mais qui ne peuvent pas traiter les cas les plus graves. Ça, c'est en supposant que le CHR le puisse, parce que c'est loin d'être le cas. Et sinon, dans tout ça, c'était le public. Et maintenant, au côté privé, il y a des structures de santé qui existent aussi. Si je peux donner un exemple, que moi je connais bien à Sokodé, c'est un centre médical qui est tenu par une communauté religieuse qui vient de la France, une communauté strasbourgeoise. Et pourquoi je connais très bien? Parce que c'est un centre médical où il y a d'autres volontaires en VSI comme moi, qui sont eux médecins et infirmiers notamment. Alors ça, c'est un centre privé qui coûte plus cher que le CHR ou que d'autres structures, mais qui est assez reconnu. Et du coup, certains patients, et c'est pas forcément les plus riches, ils vont pour se faire soigner plutôt que au CHR parce que c'est reconnu comme étant efficace. J'en connais d'autres, des structures comme ça, privées, généralement tenues par des communautés religieuses catholiques, qui sont similaires et qui fonctionnent aussi pareil, quoi, un peu plus cher, mais reconnu. Après, je ne pourrais pas donner beaucoup plus d'informations, parce que, notamment sur les chiffres de la capacité d'accueil, de lits, de réanimation, parce que je ne suis pas dans le quotidien, mais de manière générale, j'ai observé que le système de santé au Togo n'est à la fois pas suffisant et en plus beaucoup moins équipé. Ça, c'est de manière générale.
Alors ainsi, dans le contexte du système de soins togolais, comment se passe la prise en charge des malades du coronavirus?
Alors comme je le disais, à l'heure actuelle, le nombre de cas avérés positifs est assez faible, puisqu'il y en a 25. Bon, ça c'est officiel, hein, mais j'ai eu certains échos de la manière dont ces cas ont été pris en charge. Et d'ailleurs, cela m'a assez surpris dans le bon sens. Parce que apparemment à Lomé, dans la capitale, la prise en charge est faite dans une structure militaire qui est la plus reconnue au Togo. Hein. Ici à Sokodé, j'ai entendu qu'il y avait une unité de prise en charge spéciale qui avait été ouverte au sein du CHR, unité de soins spéciale pour le coronavirus. Mais pour l'instant, au Togo, on n'en est qu'à la préparation, quoi. Donc, par exemple, le seul cas dont j'ai entendu parler à Sokodé, c'était pas un cas sévère, donc il nécessitait pas de prise en charge hospitalière. Mais voilà, on se prépare, quoi. Et au centre médical du Puy de Jacob, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la communauté dont je parlais, où il y a des volontaires, comme moi. Eux aussi, ils sont en mode préparation. comme on dit, un peu le calme avant la tempête, quoi.
Une toute dernière question, hein, avant d'y revenir sans doute plus tard. Quel est ton sentiment si l'épidémie venait à s'étendre ?
Alors honnêtement, mon sentiment, il n'est pas très optimiste. En même temps, il vaut mieux pas l'être pour pas être surpris par la suite, quoi. Je pense que c'est un peu un sentiment qui est une réaction qui est humaine de se dire ça. Et il est d'autant moins optimiste qu'en plus d'un mauvais système de santé, le confinement, il est impossible ici. Et on ne pourra pas mettre en place des mesures aussi fortes que celles qui sont mises en place en France. C'est ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, l'approvisionnement en nourriture se fait au marché, où il y a beaucoup de monde. Il y a les vendeuses, il y a les acheteurs, les acheteuses. Donc pour le moment, les mesures individuelles de protection, ils sont pour la majorité de la population pas respectées. Et en plus de ça, il y a des voix qui s'élèvent pour dire que le coronavirus, il supporte pas la météo chaude et sèche qui existe au Togo. J'ai entendu dire que le corona pouvait pas supporter des températures supérieures à 28 et 30 degrés. Alors, du coup, les gens, ils respectent encore moins les mesures de protection en se disant que c'est vrai. Alors, peut-être que c'est vrai, mais le fait est qu'il n'y a aucune preuve scientifique qui a été apportée pour le moment. Et si ça s'avère faux, cette rumeur, ce sera encore plus grave parce que les gens ne respectent pas du tout les gestes. En tout cas, encore moins que s'il n'y avait pas eu quoi.
Eh bien, merci François pour ta disponibilité. Et si tu en es d'accord, nous te retrouvons dans quelques semaines pour un nouvel échange pour faire le point de l'évolution de la situation.
Pour la musique, c'était Adam et Alma, Naked, sur l'album Back to Sea. On reste à l'étranger, en Grèce cette fois, avec un interview d'Elsa.
Pour une analyse politique de la situation économique et sociale en Grèce, nous avons posé quelques questions à Mathieu, habitant d'Athènes. Bonjour Mathieu, alors tout d'abord, peux-tu parler de la situation en Grèce depuis le changement de gouvernement à l'été 2019 ?
Alors au niveau de la situation politique en Grèce, en juillet dernier, un nouveau gouvernement est arrivé au pouvoir, un gouvernement de droite qui a été élu avec un programme clairement axé sur l'extrême droite qui prenait pour cible directement les anarchistes du centre d'Athènes ainsi que les migrants et les réfugiés. Donc depuis juillet, on a vu une augmentation de la présence policière, une augmentation de la répression policière, beaucoup de lois qui sont passées en répression aux réfugiés, donc l'arrêt de l'accès à la sécurité sociale pour les réfugiés, des demandes de droit d'asile plus difficiles, et toujours l'entassement des gens dans les camps et la création de nouveaux camps. On a vu l'éviction de multiples squats à Athènes, à Thessaloniki, beaucoup dans le centre d'Athènes, où énormément de squats et de gens qui essayaient de vivre en autogestion ont été mis à la rue et ensuite emmenés dans des camps. Et tout ça, on va dire, culminé la semaine, en fait, juste avant que l'épidémie de Covid-19 arrive, avant que les mesures soient prises par le gouvernement ici, où il y a eu cette escalade avec la Turquie. Donc Erdogan, le président turc, a décidé d'ouvrir, entre guillemets, les frontières, donc a poussé en fait les réfugiés qu'il a sur son territoire vers la frontière pour faire pression sur l'Union européenne. Et en réaction à ça, le gouvernement grec a augmenté la répression sur toutes les frontières et en plus a déclaré qu'il ne prendrait plus de demandes d'asile pendant un mois, ce qui est ignoble d'une première part, et puis contraire à toutes les lois internationales, à toutes les conventions. Et bien sûr, l'Union européenne était pleinement derrière le gouvernement grec vis-à-vis de ça.
Avec cette crise du coronavirus, quelles ont été les mesures prises par le gouvernement grec ?
Alors, concernant les mesures qui ont été prises par le gouvernement grec, au final, c'est peut-être assez similaire à ce qui se passe en France. Les écoles ont été fermées ici avant la France. Mais depuis lundi dernier, on est sous un confinement qui est vraiment similaire à ce qui se passe en France. C'est-à-dire que tout ce qui est considéré comme commerce qui n'est pas de première nécessité est fermé. On n'a pas le droit de se regrouper. Les parcs, les restaurants, les cafés, tout a été fermé. Pour sortir, il faut une autorisation écrite, vraiment très similaire à ce qui se passe en France. On a vu aussi que beaucoup de gens se mettent à télétravail. Il y a aussi un système de chômage partiel qui a été mis en place. Le gouvernement fait des cadeaux aux entreprises. C'est vraiment très similaire, en fait. Mais nous, ce que je peux voir autour de moi, c'est ça. Donc les gens sont confinés. Jusqu'à, pour l'instant, on ne sait pas jusqu'à quand.
Quelles conséquences cette crise a pour l'économie du pays ?
Alors, concernant l'économie, il faut savoir déjà que la Grèce est encore sous le coup de la crise économique de 2008, même si les économistes disent que ça repart au jour le jour autour de nous. Les gens sont toujours très très précaires, les contrats sont rarement à durée indéterminée, les gens vivent de petits CDD, énormément de petits boulots qui sont payés au lance-pierre. Beaucoup de gens ont aussi des boulots qui n'ont pas sans contrat. Et donc, bien évidemment, avec cette crise, du coup, tous ceux qui étaient les plus précaires sont encore plus précarisés. Il y a eu énormément de licenciements, mais également tous ceux qui travaillaient en fait sans contrat, ils n'ont rien du tout. Moi, je connais quelqu'un qui venait d'être embauché, mais qui n'avait toujours pas son contrat. C'est terminé, c'était dans une pâtisserie. Et puis, moi, ce que je vois, que l'économie de la Grèce, elle tient beaucoup au tourisme. et que, à mon avis, l'été arrive si, et il y a énormément de gens qui font les saisons ici, qui travaillent comme saisonniers en tant que dans les îles, sur les plages, et s'il n'y a pas l'afflux de touristes cet été, ça va faire très très mal au pays. Il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver sans un travail saisonnier sur lequel ils comptent en fait pour vivre toute l'année.
Le télétravail est-il mis en place ?
Alors moi, de mon côté, je suis en télétravail depuis bientôt 2 semaines. Donc je travaille dans un centre de contact, donc un centre d'appel en fait, ici à Athènes. Et donc je travaille depuis chez moi. Nous, on est 4 à vivre chez moi et on est tous en télétravail. Donc on a tous cette chance, en tout cas, de toujours avoir accès à un salaire et à réussir à travailler en télétravail. Après, c'est en train de se compliquer. Pareil, je sais que les gens vont basculer sur ce chômage partiel, que y a beaucoup d'incertitudes en ce moment. Pour moi, ça va, mais j'ai d'autres gens autour de moi pour qui les choses risquent de changer très vite. On ne sait pas exactement dans quelle direction.
Quelles sont les conséquences pour les plus précaires, notamment les personnes vivant en squat, en tente et dans les camps ?
Alors, mais comme partout, pour les plus précaires, c'est effectivement ceux qui sont le plus touchés par cette crise, les gens qui n'ont pas de... Les gens qui n'ont pas de logement, qui n'ont pas de sécurité sociale. Ici, moi, je pense aux gens qui sont dans les camps, des camps de réfugiés qui sont un peu partout dans le pays et qui ont été surpeuplés et qui sont des vraies mines de problèmes sanitaires. Bon, c'est déjà que beaucoup de gens ont appelé déjà depuis des années à faire évacuer ces camps, à reloquer les gens et à faire avancer les procédures de demande de droit d'asile. Mais là, dans ces crises, c'est encore plus urgent. Des ONG, MSF par exemple, a clairement dit au gouvernement grec que ça allait être une catastrophe sanitaire si on n'évacuait pas les gens de ces camps. Et pour l'instant, rien n'a été fait. Les gens sur les camps qui sont sur les îles grecques, donc Lesbos, Chios, ont été, au lieu d'être évacués vers des endroits, on va dire, soit le continent, en fait, la décision a été prise de les fermer complètement, d'empêcher toutes les ONG, tous les acteurs de venir. Et donc les gens sont isolés en fait. Et il n'y a pas de point d'eau pour pouvoir se laver, ou très très peu. Les conditions sanitaires sont très 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 précaires. Donc ça risque d'être posé beaucoup de problèmes. Et effectivement, je connais comme l'anecdote, quelqu'un qui est sur l'île de Chios et qui a décidé de ne pas vivre dans le camp surpeuplé et de vivre dans la rue car c'était mieux pour lui, s'est même fait a reçu une amende de la part de la police pour ne pas respecter en fait le confinement.
Enfin, un point sur la situation des enseignants liée à ce qu'on a peut-être tort d'appeler la continuité pédagogique. On en discute avec Catherine Piécuche.
Je suis professeure d'allemand au collège Georges Brassens à Saint-Venant, et puis je suis également secrétaire de la FSU Pas-de-Calais. Moi, j'aurais commencé par en fait mettre en question le terme de continuité pédagogique, parce que ça, c'est le terme utilisé par la communication ministérielle qui vise à faire croire des choses fausses, c'est-à-dire qui vise d'abord à faire croire qu'on peut avancer dans les programmes, qu'on peut faire comme si de rien n'était, et que les dégâts, entre guillemets, seront minimes en faisant tout reposer sur les enseignants. Ce terme-là, moi, je le conteste. Il ne peut pas y avoir de continuité pédagogique. Ça, c'est une façon de vouloir faire croire à l'opinion publique et aux parents en particulier que le gouvernement a tout fait, qu'il s'est bien préparé, en fait, hein, pour que les élèves ne pâtissent pas de la situation. Or, ça, c'est faux. Quel que soit l'investissement personnel des enseignants, il est énorme, malgré ce qu'a pu en dire la porte-parole la semaine dernière. Il est énorme, il est certainement trop important dans beaucoup de cas, au point où on a beaucoup de retours de parents d'élèves qui se plaignent de la masse de travail. Alors soit ça pour les parents les plus favorisés, soit de parents d'élèves complètement perdus, qui ne peuvent pas suivre, de toute façon ne peuvent pas aider et ne peuvent même pas juste contrôler le travail qu'il y a à faire, dans la mesure où rien n'a été cadré au départ dans l'utilisation des outils. Parce que, bien sûr, il n'y a pas à y avoir de cadrage au niveau des contenus pédagogiques, la liberté pédagogique, elle est essentielle, mais au niveau du cadrage des outils. Ce qui fait que de nombreux élèves se voient subitement, alors qu'ils n'y ont jamais été préparés, qu'ils n'ont jamais appris à manipuler les dizaines d'outils différents, à jongler, rien que dans la façon de donner hein, le travail, à jongler entre différentes applications, y compris des applications qui ne relèvent pas de la RGPD, alors que quand on les a dans la classe, hein, la plupart des élèves ont déjà des difficultés à changer de support, à passer d'une activité pédagogique d'un support à un autre. Pour les plus petits, on a même un certain nombre qui a du mal à suivre la numérotation, hein, la pagination d'un manuel. Dire qu'on les décroche vite, en fait, ils sont vite décrochés si on ne fait pas attention. Il y a du mal également à suivre, par exemple, à prendre ses leçons dans l'ordre, prendre son cahier ou son classeur dans l'ordre pour les leçons. Enfin, faut vérifier ça. En sixième et en cinquième, on peut être amené à faire ça. Hein. Moi, je parle de choses concrètes que je vis au quotidien et je suis pas dans un établissement d'éducation prioritaire. Je suis dans un établissement, je dirais, 50-50, donc standard. Pour toutes ces raisons, en fait, on est en train de décrocher. Enfin, c'est pas nous qui décrochons, c'est les élèves qui décrochons, mais parce que les conditions de cette prétendue continuité pédagogique, elles ne peuvent pas faire de toute façon qu'il ne puisse pas y avoir un décrochage. Et ce décrochage, il va être encore accéléré par rapport à la situation qu'on connaît habituellement de difficultés scolaires ou de décrochage. On parle peu aussi, j'essaie de lire beaucoup, mais je trouve qu'on parle peu des conditions sociales concrètes des élèves. C'est-à-dire que souvent, l'argument qui est mis en avant, c'est la fracture numérique, le fait d'avoir une connexion ou pas, le fait d'avoir un débit lent ou un débit normal ou rapide, le fait d'avoir une tablette, un ordi ou des ordinateurs en nombre suffisant s'il y a plusieurs enfants à la maison, si un parent travaille en télétravail, etc. C'est toujours ça qui est mis en avant. Par contre, le reste, c'est-à-dire sur quelle surface les familles elles vivent. Quand on est à plusieurs enfants avec des parents confinés, sur une toute petite surface, moi j'ai un certain nombre d'élèves qui sont dans ce cas-là, je vois pas comment on peut continuer même à faire un travail, même minimal, c'est vraiment très compliqué. On a beaucoup d'élèves aussi qui ne mangent qu'un seul repas chaud par jour, parce que c'est le repas de la cantine le midi, notamment grâce à l'aide sociale du conseil départemental. D'autres élèves aussi qui ont d'autres soucis concrets parce que leurs parents sont soignants, alors soignants ou, comme moi j'en ai, femme de ménage à l'hôpital, qui courent autant de risques que les personnels soignants. Enfin, tous ces facteurs-là, on n'en parle jamais. Et pour moi, c'est des facteurs qui plombent considérablement les situations d'apprentissage. Donc, voilà, c'est l'occasion, effectivement, de remettre ça dans le paysage, si je peux dire. Donc voilà, en plus, je suis très en colère avec les annonces de soutien là pendant les vacances de printemps pour les élèves qui sont en difficulté. Donc les élèves qui sont pas en difficulté, qui ont la chance d'avoir de bonnes conditions d'apprentissage, souvent d'avoir des parents qui peuvent les aider, eux auront droit à des vacances. Et les élèves qui seront en difficulté, on leur demande de suivre un nouveau programme encore connecté, alors que la plupart du temps, ce sont des élèves qui ont des difficultés de connexion. Et donc, pour arriver à quoi, au bout du compte? Pour dire en gros que s'ils sont décrochés, c'est de leur faute à eux, c'est de la faute de leur famille, mais que l'institution aura tout fait. C'est absolument inacceptable. Donc, il y a beaucoup de situations, enfin, beaucoup de choses qui me mettent très, très en colère actuellement, puisque c'est révélateur, en fait, de déni récurrent et qui ne cesse de s'aggraver au sein de l'éducation nationale, comme dans d'autres secteurs. Hein.
Et justement, concernant l'éducation nationale, donc, est-ce qu'on peut essayer de préciser, pour voir un peu clairement, quelles sont les incuries en fait, de l'éducation nationale? Est-ce que c'est un manque d'anticipation? Est-ce que c'est une question d'outils? Est-ce que c'est une question d'ambition?
C'est pas que ça, je crois qu'il y a la question, quand je dis je conteste le terme, je crois qu'il y a la question, il aurait fallu se poser la question. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut mettre en place? Qu'est-ce qu'il est raisonnable de mettre en place? Ou même, personne ne s'est jamais posé la question. Là, c'est mon avis personnel, mais Est-ce qu'il aurait été grave de mettre les élèves en vacances pendant 2 ou 3 mois? Personnellement, je le pense pas, moi. Hein. C'est une vraie question. Parce que, de toute façon, même s'il y avait eu, il y a eu le problème des outils informatiques, mais ça commence à se roder, le ministère, comme les collectivités, ont fait des gros efforts pour mettre à jour les plateformes. Là, il y a des jours, ça bug encore. Alors, en général, plus du côté des élèves, des connexions des élèves que du côté des personnels. Hein. Mais, c'est la façon même de pouvoir continuer qui pose problème. Comme je dis, c'est le fait déjà de pouvoir se repérer dans des outils numériques multiples et variés. Donc là, on a un rappel là depuis quelques jours, un rappel parce que nous, la FSU, on l'a réclamé à corps et à cri d'avoir un rappel, que l'institution rappelle aux collègues de privilégier. Alors déjà, c'est que privilégier, hein, c'est pas d'utiliser exclusivement les outils institutionnels. Donc le NT, la classe virtuelle pour ceux qui le souhaitent, sauf qu'on a découvert entre-temps que la classe virtuelle, en fait, qui passe par le CNED, elle est hébergée chez Amazon, donc gros problème quand même. Mais que de toute façon, on sait bien, enfin les élèves qu'on a en classe et qu'on arrive à faire travailler parce qu'on est là, en vrai, parce qu'on est, on voit dans leur regard, on passe à côté d'eux, on est, moi je suis prof de langue, donc on est toujours dans un échange physique concret, voilà. Et donc, qu'on va aller chercher systématiquement, tu veux pas dire le petit dialogue, tu veux pas faire le petit jeu, ces élèves-là, on les raccroche. En tout cas, on en raccroche un certain nombre pendant les heures de cours, heure après heure. Alors, plus ou moins avec succès, hein, mais là, on peut pas le faire. Ils vont être pour n'importe quel outil numérique, c'est pas possible. De toute façon, même le meilleur outil numérique, même le meilleur, la meilleure préparation là pour le coup de l'institution, elle peut pas pallier ça. De toute façon, ce que je disais en point de départ, c'est-à-dire que faut pas faire croire que un outil numérique peut remplacer l'enseignement en présentiel avec des vrais enseignants qui sont en face, qui sont en vrai dans la classe et qui prennent en charge concrètement, physiquement. On a l'impression que nos dirigeants sont vraiment coupés du terrain, on le dit depuis longtemps, mais là je pense que c'est vraiment encore plus vrai, ou alors ils sont cyniques, c'est-à-dire qu'ils le savent très bien, mais peu leur importe au fond, puisque ce qui compte c'est leur communication.
Et concernant ces outils, pour aller un petit peu plus loin, bon, effectivement, c'est non seulement compliqué ou peut-être insuffisant parce que pas préparé. Est-ce qu'on pourrait pas même ajouter que ça peut être délétère? On interdit les téléphones portables à l'école parce que il faut que les jeunes, les ados décrochent des écrans et tout d'un coup, on leur demande d'avoir le nez dedans toute la journée.
Je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est absolument contradictoire. En plus, il faut savoir que ils ont une information à la santé numérique, hein, qui est faite par l'infirmière scolaire. Toutes les classes, au collège en tout cas, toutes les classes, une fois par an, ont une heure d'information sur ces questions-là. Moi, j'ai déjà des élèves qui réfléchissent un petit peu et puis qui régulièrement viennent dire en début de cours. Madame, on a eu l'information par l'infirmière sur on ne devrait pas avoir à passer plus de 2 heures d'écran, tout compris par jour, quand on est adolescent, hein, entre 11 et 14 ans, ou entre 11 et 14 et 15 ans. Ah ben déjà, quand on compte tout le temps qu'on passe sur les écrans en classe, puisque d'un autre côté, c'est paradoxal aussi, l'institution nous enjoint à utiliser le plus possible d'outils numériques. Je suppose pour faire preuve de modernité, alors que c'est pas forcément nécessaire. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ne font que, enfin, en fait, on change le support, mais il n'y a jamais un plus pédagogique. Donc il y a des élèves qui font déjà ce calcul-là dans leur tête au courant de l'année. Bon, en classe, on l'a déjà bien dépassé, hein, cette quantité. Alors vous imaginez, ces mêmes élèves qui sont aujourd'hui 5, 6 heures, 7 heures d'affilée pour les plus assidus devant différentes plateformes pour faire le travail. C'est complètement contradictoire. Enfin, c'est quoi comme message en termes éducatifs? Puis au niveau de leur santé, hein, simplement au niveau des risques psychosociaux, ils sont réels, je pense.
Dernière question, comment est-ce que vous envisagez l'après, le retour, la suite?
Bonne question. Pour l'instant, je ne sais pas parce que je pense que ça va beaucoup dépendre du moment où il y aura un retour. Et que ça, je pense que pour l'instant, pas grand monde ne peut le dire. Moi, j'ai le sentiment, c'est peut-être un sentiment personnel, il y a des conditions personnelles aussi qu'on ne repeindra pas avant un bon moment, pas avant juin, voire mi-juin. Si c'est à ce moment-là, la reprise restera dans un contexte pré-vacances d'été, et donc on fera un lien. Mais on sera bien obligé de redire qu'on reprend au 13 mars, quelque part, que ce qui a été entre deux, ça a été un lien, un entretien de certaines choses. C'est le discours le plus raisonnable, je trouve, pédagogiquement. Et que pour moi, il faudrait que, honnêtement, l'institution, elle prenne en compte, là, cette grosse parenthèse qui aura eu pour revoir l'ensemble des programmes pour les années à venir.
Cette émission se termine. C'était au téléphone Catherine Piécuche, enseignante, secrétaire FSU du Pas-de-Calais. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à PFM qui nous diffuse. On se quitte en musique, toujours avec Adam et Alma. Cette fois, c'est Bonne.